Les Assises de l'immobilier de Metz 2024 sur Radio Immo.
Parmi les sujets épineux, en v'là justement les enjeux et les bénéfices de la loi Auguet, une spécificité française. On va en parler avec nos invités Charles Marinakis qui est avec nous, président de Ceinture 21 France. Bonjour.
Bonjour.
Olivier avec... Descamps, oui. Directeur général d'IAD France.
Bonjour. Bonjour.
Loïc Quentin qui est président national de la FNAIM.
Bonjour.
Et Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires.
Bonjour.
On voilà, sent que cette table ronde est attendue.
Il y a des fans, dans la salle. Déjà, qui pour revenir un petit peu, peut-être Charles, sur cette loi Auguet qui visiblement est un peu nébuleuse sur certains sujets.
Vous savez, c'est un texte qui est ancien maintenant et qui n'a pas été toiletté depuis de nombreuses années, qui ne s'est jamais adapté à la nouvelle pratique du métier d'agent immobilier et aux exigences des consommateurs. Donc, il y a bien des aspects sur lesquels elle est un peu vieillotte. Alors, elle est extrêmement nourrie par une jurisprudence qui prolifère, puisque la loi ne précise pas un certain nombre d'autres dispositifs. Donc, c'est vrai que la question se pose aujourd'hui de se demander si ce texte-là doit-il se contenter, encore une fois, d'une jurisprudence que nous construisons, nous. Ce sont les actions des différents agents immobiliers qui sollicitent les juridictions adaptées et qui créent cette jurisprudence. Malgré tout, il y a des zones d'opacité sur la détention des cartes professionnelles, sur la préservation des intérêts de l'agent immobilier, sur la formation préalable. Il y a des sujets qui ne sont pas abordés par cette loi Auguet, des impératifs qui nous paraissent être l'exigence du métier d'aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois, on ne s'y retrouve pas dans ces textes-là.
Il faut quand même rappeler qu'avant cette loi, donc avant 1970, n'importe qui ou presque pouvait se prétendre agent immobilier.
C'est un peu pareil maintenant, non?
Ah ben justement.
Bien envoyé, bien envoyé.
Je crois qu'Olivier Descamps, vous allez pouvoir répondre, directeur général de IAD France, sur les mandataires, forcément, ça crée un petit schisme dans le milieu.
Bah, je ne crois pas que Charles parle de moi, parce que moi j'ai ma carte, donc je suis tranquille. D'abord, la loi Auguet, il faut être très clair, il y a eu quelques temps, l'autorité de la concurrence qui s'y est intéressée. La loi Auguet, elle protège les consommateurs, comme l'a dit Bérénice, c'est qu'aujourd'hui, donc nous on est favorable à la loi Auguet, très clairement, elle protège. Dans certains pays, on en parlait encore hier soir, aujourd'hui les agents qui ne sont payés qu'au résultat protègent les consommateurs. Donc cette loi, elle est protectrice. Nous, IAD, vous nous connaissez, on est à peu près 14 000 en France. On est titulaire d'une carte immobilière qu'on délègue, on mandate nos agents commerciaux, mais comme il y en a presque, Loïc pourra le redire tout à l'heure, près de 60% dans les agences vitrées, donc on a les mêmes profils, puisqu'on est 100% agents commerciaux, les agences vitrées sont à 60% d'agents commerciaux. Donc globalement, on fait le même métier avec un choix différent, c'est de rendre nos indépendants libre de pouvoir exercer cette activité sous couvert de notre carte. Donc moi j'en ai la responsabilité dans le cadre de la loi Auguet strictement. Donc nous on pense que cette loi elle doit rester. Elle doit y a un décret. Nous on peut pas devenir numéro un en 16 ans en France si on ne forme pas ses équipes. Donc nous la clé de succès d'IAD c'est la formation. Donc il y a aujourd'hui un décret qui n'a jamais été mis en place sur la formation initiale. Donc évidemment, nous, quand on donne la chance, non pas uniquement avec des gens qui ont 10, 20, 30, 40, 50 000 ou 100 000 euros à investir pour faire ce métier, mais à des gens qui démarrent avec rien, qui avaient un job auparavant, pour les faire réussir, on les forme. Donc nous, on est favorable à ces évolutions-là autour de la formation. Les 42 heures loi allure qu'on peut faire en 3 ans et on peut les faire en 3 semaines au bout de 3 ans, pourquoi on les met pas de façon annuelle? Donc Charles a raison. Aujourd'hui, on devrait pouvoir toiletter cette loi pour l'adapter aux enjeux du marché d'aujourd'hui.
Loïc Quentin, président national de la FNAIM. Je vais y arriver. Parce que je suis venue vous voir tout à l'heure en disant pourquoi moi j'ai toute ma vie entendu FNAIM et que vous le dites différemment. Bref, est-ce que ça crée un déséquilibre justement entre ces deux expertises, même si elles sont communes, enfin elles sont équivalentes sur le fond, entre les mandataires et les agents immobiliers?
Bon, le sujet n'est pas entre réseau de mandataires et agents immobiliers. Je crois que c'est surtout parce qu'on n'a pas opposé un modèle économique. Nous, la FNAIM, on est pour tous les modèles économiques, mais on est extrêmement attentif et on est rigoureux sur l'évolution de ce statut et on est pour le faire évoluer dans l'intérêt du consommateur. Alors, Olivier parlait tout à l'heure. Décret formation, la FNAIM a engagé un recours devant le Conseil d'État. pour voir obligée toute personne qui veut entrer dans la profession, habilité par un titulaire de la carte professionnelle, à s'entremettre, négocier ou pour le compte d'un titulaire de la carte, d'avoir une formation professionnelle minimale que nous demandons, et dans ce recours, c'est 42 heures en présentiel autour d'un référentiel de qualité.
Mais
essentiel pour arriver à préserver et faire évoluer notre statut.
Si vous dites ça, je rebondis. Quelles sont les incidences aujourd'hui pour le consommateur ?
Je crois aujourd'hui, l'environnement juridique est très, très, très compliqué. La réglementation ne cesse d'évoluer. Je ne pense pas que, même en formation accélérée, en 5 jours, on puisse prétendre être un professionnel de l'immobilier. Un monument comme la loi climat résilience dans le cadre des contacts commerciaux exige une formation préalable et un accompagnement très fort. C'est le sens du décret de formation qui devait être publié il y a 10 ans, issu par la loi Allure. Alors je dirais quand même que la loi Auguet, elle a quand même évolué depuis 54 ans. D'abord, il faut rendre à la FNIM cette initiative de l'avoir poussée, et notamment depuis 1965, pour l'obtenir en 1970. Elle a évolué. La loi Allure a fixé un code d'éthique et déontologie, une obligation de formation professionnelle qui n'existait pas avant, avec 14 heures par année pour un titulaire de la carte, a étendu cette formation aux collaborateurs habilités, mais qui n'est toujours pas appliquée depuis 10 ans. Et je me demande pourquoi. Pourquoi, après mise en demeure du Premier ministre, absence de réaction, nous, organisations professionnelles, on est dû en venir, effectivement, à saisir le Conseil d'État. Donc c'est absolument insupportable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin aussi dans la protection du consommateur. La loi Allure avait prévu une commission de discipline à l'égard de tout titulaire de la carte. Et c'est ce qui nous oppose, d'ailleurs, moi, peut-être, au réseau de mandataires. C'est simplement qu'on ne peut pas... Moi, je veux bien, mais il faut un régime de sanctions pour prendre de vrais risques. Le régime de sanctions, la commission de discipline loi Allure, c'était le blâme, l'avertissement, la radiation, la suppression de la carte. Et à ce titre, le risque n'est pas le même quand on porte une vraie responsabilité, quand on a 2 ou 3 collaborateurs, quand on en a 14 000. Moi, je ne suis pas contre les modèles, mais je suis pour que la réglementation et l'application des règles de droit soient les mêmes pour tous.
On ne peut qu'attendre une réponse de Vincent Pavanello, président de la maison...
Des mandataires.
Des mandataires, pardon.
Oui. C'est très intéressant ce débat entre les modèles, et je croyais avoir participé à cette même place il y a 3 ans, mais je me dis que si notre ami Cédric organise cet événement tous les ans, c'est peut-être qu'on ait ce débat de manière un peu différente et en le mettant dans le contexte actuel. Et je pense que le contexte actuel, ça a été dit, c'est ce fameux rapport de l'autorité de la concurrence qui est quand même un geste fort. Arrivé dans un contexte politique qui n'a peut-être pas permis l'accueil qu'il méritait, mais qui est un acte fort qui est posé par l'État. Et si on lit les premières pages de ce rapport, l'autorité de la concurrence s'étonne, s'inquiète de 2 choses parmi les plus importantes. Le premier, c'est le coût. Et d'ailleurs, ils disent qu'on est plutôt à 5,8 TTC en moyenne, je parle du pourcentage de commissionnement des agents. Là où l'Europe sera à 4, on peut sûrement affiner ces chiffres-là, mais en tout cas, ils disent que vous êtes trop cher. Et je pense d'ailleurs qu'ils en tirent une conclusion fausse, mais on en parlera peut-être après sur la concurrence. Et ils disent, deuxième remarque, nous pensons que l'offre telle qu'elle est présentée, au fond ce package unique, ne permet pas aux consommateurs d'y voir clair et de faire le tri. C'est un petit peu les 2 critiques qui sont faites. Et c'est, je trouve, dans ce contexte-là qu'on peut discuter, échanger, débattre sur ce que propose la FNAIM et puis les modèles traditionnels, puisque un des enjeux de l'autorité de la concurrence, c'est de dire les prix sont trop chers, car le marché et car le métier n'est pas assez ouvert. Et je pense d'ailleurs qu'ils se trompent dans cette remarque-là. Mais c'est leur point de départ. Eux-mêmes proposent de faciliter les conditions d'accès à cette profession. Je ne pense pas être en mesure de les suivre. Je dis simplement que proposer l'inverse, d'une façon ou d'une autre, de manière plus ou moins radicale, via une formation initiale obligatoire sur laquelle les réseaux ne sont pas en désaccord, via la limitation du nombre de conseillers rattachés à une carte, il y a plusieurs façons de limiter l'entrée. Je pense que c'est dire au gouvernement, aux gens qui nous gouvernent, non seulement on n'est pas d'accord avec l'autorité de la concurrence, mais on propose même quelque chose de radicalement opposé à la principale proposition. Et sur le deuxième point, et j'en terminerai là-dessus, aller vers un système, au fond, d'agents immobiliers de seconde zone, de conseillers immobiliers différents les uns par rapport à les autres. Je pense que c'est un petit peu aussi une des idées de mieux marquer la différence. Là aussi, je pense que c'est ne pas avoir entendu ce que demande l'autorité de la concurrence, qui est, à l'inverse, j'allais dire, une simplification et un travail de mise en ordre de manière à ce que le consommateur s'y retrouve mieux. Donc moi, c'est mes deux points d'actualité par rapport à ce qui a été dit. J'ai l'impression qu'on veut fermer le métier et faire des sous-catégories dans ce métier à un moment où l'autorité de la concurrence, et je ne suis pas en accord avec tout ce qui a été écrit dans le rapport, dit plutôt il faut l'ouvrir davantage pour qu'il y ait plus de concurrence, pour que les commissions baissent, et il faut le simplifier. Voilà, c'est juste une remarque d'actualité sur comment on doit essayer en tant que profession, et là je m'adresse à voilà, nous collectivement, dans nos combats qui sont les nôtres, peut-être à ne pas être trop orthogonal par rapport à ce qui est proposé par l'autorité de la concurrence, qui est un rapport qui n'a pas été bien accueilli, mais qui n'est pas pour autant à oublier, et qui reviendra, je pense, sur le devant de la scène. En tout cas, moi, c'est le pari que je fais, surtout dans un moment où le pouvoir d'achat va devenir un sujet de plus en plus sur le devant de la scène.
Une petite réaction peut-être, Charles Marinakis et Loïc Quentin, et je rappelle aussi que en fait, l'autorité de la concurrence l'avait précisé, ramener les frais à 4% à la moyenne européenne, ça permettrait aux ménages d'investir plus. Ça faisait partie de leurs explications. Charles, une petite réaction sur ce qui s'est dit.
Alors, le sujet n'est pas de cloisonner la profession, il est de la réguler, de la sécuriser. C'est un autre sujet. L'autorité de la concurrence, j'ai eu, comme Olivier ou d'autres ici, j'ai moi-même été reçu par la commission et l'autorité de la concurrence avant que ce rapport ne soit sorti. Je vais vous dire ce que j'en pense, c'est une vague fumisterie. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est de disrupter tous les métiers, y compris celui de l'agent immobilier, en imaginant que si on prélève 5,8%, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas de différentiel d'honoraires entre les agences immobilières et les agents mandataires, hein, on a sensiblement les honoraires moyens exactement les mêmes, c'est qu'on le fait par plaisir. Mais on le fait parce qu'on a un prix de revient qui ne nous permet pas de faire autrement. Mais moi, si vous m'enlevez la DGCCRF, si vous m'enlevez Tracfin, si vous m'enlevez la CNIL, si vous m'enlevez RGPD, il n'y a pas de problème, je vais baisser mes honoraires. Mais on ne peut pas d'un côté demander aux agents immobiliers de sécuriser, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est un tiers de confiance, de sécuriser la transaction au maximum, et donc de leur demander de prendre à charge un certain nombre de tâches supplémentaires pour que la transaction soit transparente. Et encore une fois, c'est la mission essentielle de l'agent immobilier, et en même temps contester le revenu par ailleurs. Donc je rappelle quand même que c'est un revenu, et Olivier l'a rappelé, qui est un revenu qui est adossé au résultat et qui n'est pas un revenu qui est construit. Et j'en profite quand même pour dire que tous les pure payeurs, en tout cas une partie des pure payeurs qu'on nous a présentés comme étant des solutions de disruption du métier d'agent immobilier, des choses absolument fantastiques, des gens qui prenaient 900 euros d'honoraires parce que nous on était des voleurs depuis 50 ans, puis de 900 ils sont passés à 1800, puis de 1800 ils sont passés à 4000, puis de 4000 ils sont passés à 3%, et de 3% ils sont passés à 5%. Et la semaine dernière, ils sont passés au tribunal de commerce. Avec un passif de 19 millions, comme Matera va y aller, comme Haussmann y est aujourd'hui, comme malheureusement on ne peut pas satisfaire des difficultés de d'autres organisations, mais que tout le monde connaît aujourd'hui, qui sont sous procédure de sauvegarde, parce qu'à un moment donné, on a voulu faire d'une situation particulière, qui est une situation de la Covid, avec un marché particulier, quelque chose qui était un trait de consommation définitif. Ben, ce n'est pas vrai. Nous, on vient de faire une enquête récente, et vous le verrez récemment dans la presse, où l'agent immobilier reste le référentiel tiers de confiance et qui fait quasiment 75% de part de marché aujourd'hui. C'est ça la réalité, c'est comme les Dark Kitchens, c'est comme Godzilla, tout ça, c'est passé à la trappe et on revient à des pratiques qui sont des pratiques saines du métier. Donc il ne s'agit pas de l'interdire, l'accès au métier. Je rappelle qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas exercer ce métier-là si vous n'avez pas une certification qui est délivrée par l'État. Voilà. Et la formation préalable me paraît être vraiment à minima. Et enfin, je termine sur les cartes professionnelles. Moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'Olivier ait 14 collaborateurs sous une carte professionnelle. Je veux juste que quand j'ouvre une succursale à 12 km de mon agence principale, on ne me redemande pas une carte professionnelle. Voilà, c'est ça que je veux. C'est que la liberté d'expression, si tant est que ce soit ça l'orientation, elle doit être la même pour tout le monde.
Donc c'est...
Oui, plusieurs choses. L'ADLC est rentré par la mauvaise porte sur le métier. D'abord, on a tous vu, puisqu'on a tous été reçus, une méconnaissance totale du métier de l'immobilier. Ils ont vu le métier de l'immobilier comme un bien de consommation, qu'ils veulent toujours d'ailleurs déréguler complètement. Hein, en disant, le consommateur va payer les photos, paiera à l'annonce... inspiré, parce que tu en oublies un parmi tous ces leaders, hein, tu as oublié les agences de papa, donc très inspiré par les agences de papa en disant mais pour moins de 2000 euros, vous allez vendre votre bien. Donc nous, on est très attachés à la loi Hoguet sur la rémunération au succès. Ça protège. Deuxième erreur de lecture, un marché qui a encore 30% de PAP ne peut pas dire que ce ne soit pas un marché ouvert. C'est-à-dire qu'en France, chacun a le droit de vendre son bien seul. Je préfère qu'il passe par nous, évidemment, dans la profession. Donc le marché était très très ouvert. Donc ils sont rentrés par une mauvaise voie. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, je pense, hein, c'est à l'intérieur de ce terrain de jeu, chaque dirigeant, chaque créateur est libre de créer son modèle. Nous, on a créé un modèle IAD, immobilier domicile, en disant que l'agence, aujourd'hui, par le digital, permettait de se dispenser des frais lourds d'agence. Tu parlais d'un réseau qui, malheureusement, est en sauvegarde, hein, avec des market centers, avec des frais très importants. Hein. Nous, on est à l'opposé de ça. Et donc, en ayant un modèle léger, on a plutôt des honoraires autour de 3,2. Mais quand des clients veulent nous rencontrer en agence, on dit que ce n'est pas possible. Alors, c'est pas très grave, puisque l'important, c'est le bien. Donc, évidemment, l'important, c'est la maison à vendre ou à acheter, plutôt que de venir dans un lieu. Mais néanmoins, donc, chaque modèle, après, choisit sa voie, dans un cadre qui doit être protecteur du consommateur, qui ne doit pas être enfermant. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Charles. Hein. C'est-à-dire que nous, on a une carte pour 14 000. Pourquoi on redemande une carte quand on veut ouvrir à 7 km de l'agence d'à côté? Et pourquoi trois agences vitrées d'un même réseau peuvent avoir trois barèmes d'honoraires différents dans la même rue, alors que nous, on doit avoir le même barème partout en France? Et donc, il y a ce toilettage dont on parle. Aujourd'hui, il semble nécessaire, mais sur un axe de protection du consommateur et de règles du jeu identiques pour tous les opérateurs. Et je dirais, dans le sens des agences vitrées classiques ou dans le sens des mandataires, peu importe, chacun s'y retrouvera, mais il doit être protecteur pour chacun et les règles doivent être claires pour tous les opérateurs.
Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas clair pour le consommateur? Que le consommateur ne fait pas la distinction souvent hein, quand on demande.
Mais moi je pense que c'est super clair pour le consommateur. J'en parlais hier avec Charles, hier soir. Il n'y a jamais un client qui a demandé est-ce que tu as ta carte?
Oui,
est-ce
c'est
que
ça.
Le consommateur, il veut quoi? On l'a dit, j'ai mon ami Stéphane Fritz qui est là. Qu'est-ce qu'il veut, le consommateur?
Il veut une plus-value.
Il veut que le mandataire ou le professionnel, on va appeler ça le professionnel, soit à l'heure au rendez-vous. Qu'il le rappelle.
Exactement.
Qu'il assiste au compromis. Qu'il assiste chez le notaire. Qu'il fasse la remise des clés comme il le faut. Qu'il soit disponible. Le fait d'avoir une carte, pas une carte, ça, c'est notre tambouille à nous. De protection du consommateur. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un professionnel qui fasse bien le métier. Et aujourd'hui, il y a des mandataires, des agents co, même des titulaires de cartes qui font le métier moins bien que ce qu'on attend. Et certains qui sont excellents dans la pratique du métier. Donc, finalement, tout ça, le consommateur, c'est pas son sujet. Et donc, c'est
le
pas
consommateur,
clair,
c'est il pas paye genre. Pour quelque chose, ah. Il paye pour un service, il faut que le service soit bien fait.
Et il paye à la fin. Et il paye qu'à la fin, c'est ça qu'il faut garder. Et il ne paye que si la prestation est de bon niveau. Et ce que disait Charles par rapport à la DLC tout à l'heure, nous on est opposés à ce qu'on saucissonne les honoraires en disant puisque je t'ai fait une annonce, tu me dois 10%, puisque j'ai fait trois visites, tu me... Et moi j'avais fait la blague avec les rapporteurs en disant mais si vous faites ça, est-ce que vous comprenez le chemin complètement stupide dans lequel vous en êtes? Moi je connais des gens chez nous, ils vont inviter des quarts de Chinois à visiter les appartements. Hein. Ben oui, si toutes les 10 visites on peut prendre 2% des honoraires, et là ils se sont dit ah oui on n'y avait pas pensé. On n'y avait pas pensé. Non, c'est pour ça que quand je dis, et Vincent a raison, une méconnaissance totale de la profession, je ne sais pas qui a décidé ça, qui a voulu lancer cette mission, mais en tout cas, je pense qu'ils ont appris des choses à nos côtés.
Et oui, mais qui a lancé cette mission, je crois que c'est Bruno Le Maire, non?
Bon, on va pas tirer sur l'ambulance.
Il dit que non.
Le
rapport de la DLC vise effectivement la demande du ministre de l'économie et des finances, en tout cas. Très, très simplement, je crois qu'on n'est pas là pour opposer des modèles aux modèles. Simplement, c'est que de se rendre compte, aujourd'hui, le rapport de l'autorité de la concurrence, il est issu du rapport Attali, et avec une exploitation, je dirais, dans le cadre de la vision du président Emmanuel Macron, il faut libérer les marchés, il faut libérer les intervenants. Bon, c'est effectivement, ça va à l'opposition de l'intérêt du consommateur. Quand on a voulu libérer les coûts, comme a dit Vincent, il est vrai que nos prix sont libres depuis l'ordonnance du 1er décembre 1985. Avant, nous étions tarifés avec l'arrêté du 20 février 1974. On avait un barème. Les prix ont été libérés et notamment se sont régulés au cours, je dirais, du temps. Et dans ces mêmes intervalles, les parts de marché sont passées de 42% à 69%. 27% de plus. C'est-à-dire que, finalement, le service et le prix de la prestation n'a pas été, je dirais, été à juste mesure du service rendu. Et c'est ça qu'il faut défendre. Moi, quand j'ai été reçu par l'autorité de la concurrence au moment des conclusions, j'aurais dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train d'attaquer un secteur, il n'y a pas de concurrence pure et parfaite aussi pure que le régime de l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on peut vendre son appartement avec le bon coin, on peut le vendre tout seul, de particulier à particulier, on peut louer son appartement tout seul, on peut faire de l'intermédiation, on n'a pas besoin d'aller voir un professionnel, et pourtant nos parts de marché ont augmenté. C'est donc que le prix de la prestation, bien évidemment, il y a juste mesure du service rendu. Et ça, tous les clients qui traitent avec un agent immobilier le reconnaissent, et la satisfaction, elle est pleine et entière. Donc pourquoi remettre un système qui a effectivement montré sa justesse et son équilibre et sa sécurité. Simplement, chacun est libre de fixer ses honoraires. Si chez Olivier, c'est 3,2, ben c'est à la juste mesure du service rendu. Mais effectivement, on n'en fait pas un avantage concurrentiel en disant chez nous, c'est mieux parce que c'est moins cher. Non, surtout pas. Moi, je m'élève au contraire contre ce genre de choses. Je dirais que je veux plus de prestations, plus de conseils. Aujourd'hui, le niveau d'intervention du professionnel a baissé depuis 30 ans. Je ne vois pas, moi, avant, nous rédigions nos actes, nos compromis. J'ai commencé, moi, on purgeait le droit de préemption, on demandait le certificat d'urbanisme, on demandait l'état hypothécaire. Et aujourd'hui, on ne fait plus rien. On n'est pas des simples porteurs de clés, on n'est pas des simples visiteurs d'immeubles, on est là pour conseiller, accompagner. Et je vois encore les recours auprès des associations de consommateurs. Moi, je me fie tout à l'heure à ce qu'a dit Julien de Normandie. Julien de Normandie a été un ministre du Logement qui a introduit une notion extrêmement forte dans la loi Elan et qu'on va réveiller, la notion de tiers de confiance. Pour être tiers de confiance, il faut ajuster ses prestations à ce niveau, sécuriser le consommateur, plus grande formation et responsable de ses actes exposés que l'on oppose au titulaire de la carte. C'est une stratégie majeure et c'est une stratégie déterminante pour l'avenir de la profession.
Justement, pour ce tiers de confiance... Alors, moi, je m'oppose. Moi, je suis à l'extérieur de votre filière, de votre métier. Je m'oppose toujours en me disant, voilà, quand on a la carte, on est encadré, véritablement encadré. Comment vous, en tant que patron, avec 18 000 personnes sur le terrain, vous pouvez justement être certain de ce tiers de confiance, être certain que sur le terrain, la ligne que vous avez donnée est forcément la bonne.
Juste 14 000, pas 18, pas encore. C'est une barre qu'on n'a pas encore franchie.
Non, mais c'est parce que je vois dans l'avenir, c'est pour ça.
J'espère que c'est une belle prédiction. Nous, très clairement, aujourd'hui, et c'est pour ça que Charles disait, notre métier, c'est un métier d'homme et de femme. Très souvent, on dit on est digitalisé. Oui, on est digitalisé, mais aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes qui font le métier. Ce sont les hommes et les femmes. Donc, on s'appuie, nous, notamment sur les formations, parce que et la vie n'est jamais toute blanche ou toute noire. Nous, IAD, Immobilier Domicile, nous avons 230 espaces de coworking et de formation en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat entre il y a de l'agence, il n'y a pas d'agence, on est ci, on est ça. C'est qu'aujourd'hui, le consommateur, nos professionnels ont besoin parfois d'avoir des lieux pour se retrouver. Donc on a un cursus de formation encadré de 5 semaines. C'est pour ça que quand on dit 42 heures de formation initiale, on dit bah, ok, on y va quand ? Maintenant, qui paye ? Comment on paye ? Comment les franchisés, qui sont nos partenaires dans les réseaux, financent ça ? Comment l'État va là-dessus. Donc on a, nous, un encadrement très clair de la formation. Derrière, on a des... Par le digital, on sait globalement tout ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'on a le niveau de formation, on a le niveau... On sort des gens de chez nous qui n'ont pas fait les formations obligatoires, pas la formation Allure, les formations obligatoires du réseau IAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense qu'on est peut-être pas les seuls, je m'en ai à charge, je ne sais pas, mais en tout cas, on est parmi les rares en disant, nous, contractuellement, on t'impose des formations, si elles ne sont pas faites, si elles ne sont pas dispensées, si tu n'y as pas assisté, tu sors du réseau. Donc on a un contrôle tactique, et là le digital nous aide. Le digital ne fait pas le métier. Et après, sur ce que disait tout à l'heure Loïc, nous on est évidemment complètement aligné avec tout ça. Les modèles économiques, c'est autre chose. Si moi je suis en capacité de permettre à des gens de démarrer leur entreprise avec juste un abonnement mensuel, sans mettre de capitaux, si les horaires sont plus faibles, c'est que quelque part on a fait un choix sur le modèle. Si on n'a pas d'agence. Et aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de travailler avec un mandataire parce qu'ils veulent avoir une agence physique. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y aura plus jamais d'agence physique. Il y a des modèles qui vont perdurer.
C'est ce qu'il disait ce matin sur la première table ronde. Les agences physiques peuvent rassurer certains consommateurs qui ont besoin de se rendre dans une agence. Et ça, vous, par exemple, vous ne pouvez pas l'apporter, vous.
Hyper proximité.
Et nous, on ne cherche pas. Je vais donner un exemple très clair. On est en Italie. En Italie, on peut être mandataire immobilier et avoir une agence physique. On l'a interdit à nos mandataires. Parce que notre conviction, c'est que ce sont
des
frais.
C'est pas le business model.
C'est pas le business model. Donc on pourrait avoir, on n'a pas d'agence en Italie alors qu'on pourrait le faire. On dit non, on fait pas d'agence. Parce qu'on pense qu'on emmènerait nos entrepreneurs vers un modèle lourd et coûteux. Et d'ailleurs, l'un des succès des mandataires, c'est plutôt Vincent qui pourrait en parler, c'est fait dans des territoires où le modèle lourd, parfois, d'une agence n'est pas supportable.
Le coût n'est pas supportable.
C'est impossible.
Vincent, justement, d'ailleurs, on l'a vu dans d'autres secteurs, hein, l'immobilier et les vêtements aussi. C'est vrai que ce genre de business model, avec le coût de l'immobilier qui flambe, justement, ça peut, Vincent, justement, impacter. Ouais.
Bien sûr. Et je voulais revenir, parce qu'on parle beaucoup du consommateur. Et je voulais dire une chose sur le consommateur. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Charles, et je pense que c'est pour moi le point d'objection que j'ai vis-à-vis du rapport. Le rapport dit, plus on met des professionnels, plus les prix vont baisser. Plus le niveau des commissions vont baisser. Bon. Il y a deux limites à ça. D'abord, on a essayé avec des modèles que tu as très bien cités et les histoires économiquement tragiques que tu as évoquées. Et puis, tu as rappelé un principe de base de la microéconomie qui est que l'offreur offre sa prestation jusqu'à un certain niveau. Il a un plancher. Et effectivement, on a beau mettre de plus en plus de concurrence, il pourrait y avoir 10 millions d'agents immobiliers dans ce pays, personne ne le ferait pour 1%. Tout le monde le ferait pour, alors peut-être pas 5, peut-être 4, peut-être 3,5, peut-être 5. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce point-là, et je le prolonge juste pour dire que je pense que là, on a des sujets de place à traiter peut-être qui peuvent être intéressants, de se dire comment on fait baisser ce coût de revient. Parce que pour le consommateur, l'idée de dire qu'il va payer 5%, mais qu'il y a une bonne raison à ça, qui est qu'en fait, je prends que des mandats simples, donc il faut que j'en fasse 15 pour en vendre un, qu'en fait, il faut que je rémunère un certain nombre d'intermédiaires avant de vendre un, bref, ce sont des justifications entre nous, mais le consommateur, il ne le comprend pas. Et moi, je pense que, et c'est l'occasion de cette table ronde où il y a les différents modèles qui sont représentés d'avoir ce genre de discussion, pour moi, notre profession doit se poser la question de son coût de revient. On doit faire baisser notre coût de revient pour qu'il y ait plus de gens qui veuillent offrir leur service, pas à 1%, pas à 2%, mais pour faire plaisir à l'autorité de la concurrence, pour se rapprocher de la moyenne européenne. Ça, je pense que c'est un souhait et un objectif qu'on doit faire. Et si on y arrive, on aura fait plaisir aux consommateurs et on n'aura pas perdu sur la marge de nos modèles. Bon. Et pour moi, je vois deux axes que je propose au débat, et je pense que beaucoup de gens dans cette salle ils sont favorables. La première façon de faire baisser le coût de revient, c'est de diminuer la part des mandats simples. Si l'agent immobilier, il sait que sur 10 mandats en cours, il en a 10 d'exclusifs, et donc il va en convertir beaucoup plus que s'il en avait 10 simples, il va moins facturer sur chaque vente. Ça, je pense que c'est un très beau combat de place qu'il faudrait qu'on mène. Et puis il y a un deuxième, et j'en parle sous le contrôle de nos amis de bien ici, ils savent qu'ils ne seront pas visés par ce que je vais dire, il y a aussi un sujet de ces intermédiaires qui prennent une part de plus importante de la marge qui est créée. Si demain on est plus fort face au portail, et ça se fera pas un modèle d'un côté ou un modèle d'autre, si collectivement on est plus fort face au portail, in fine on baisse le coût de revient et on baissera nos honoraires en maintenant nos marges. Et moi je pense que l'enjeu de notre profession, vu les nuages qui s'amoncellent autour, c'est plus de réfléchir à ce sujet-là. Comment on baisse le coût de revient pour que le consommateur et l'autorité de la concurrence, qui d'une certaine manière le représente, même si il le fait imparfaitement, il puisse dire « Ok, bah, cette profession, elle a su prendre un certain nombre de décisions et le 5,8 TTC, il est passé à 5. Nous, on a continué à bien vivre. Nos agents immobiliers, nos conseillers immobiliers, nos mandataires, peu importe comment ils sont, ils ont continué à bien vivre. Et moi, je pense qu'on devrait passer moins de temps à comparer les modèles et à essayer de se tirer un peu dans les pattes. Et j'y prends aussi ma part. Chacun a contribué peut-être à ça. Et plus se dire, c'est quoi les grands combats qui nous intéressent? Mandat exclusif, surpuissance des portails. Je pense qu'on a au moins là deux sujets sur lesquels on pourrait se retrouver. Et il y en a sûrement d'autres.
Louis Quentin.
Et juste pour, et je peux en rajouter un, puisqu'on est là, réunis par Cédric, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'on est tous autour de cette table, bien qu'on fait le même métier, la même profession, qu'on veut l'encadrer, de pouvoir avoir un MLS français porté par la MEPI ouvert à tous les mandataires.
Je crois que c'est pas une question de coût, c'est une question, je dirais, de trajectoire de la profession. Je rappelle, puisque pour revenir au thème sur la loi Hoguet, faut-il l'aménager, la réformer, l'abroger, et puis on a déjà entendu. La singularité de la loi Hoguet, c'est qu'une loi, et c'est la seule en Europe, qui réglemente trois professions. Carte G, T, S. Je voudrais pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, cette solidarité qui existe entre les trois professions est déterminante pour effectivement son avenir. Si jamais le législateur venait à distinguer l'activité, la carte T, et la sortait de ce cadre-là, je peux vous dire que les conséquences seraient extrêmement importantes. Donc là, j'envoie un petit message quand même de forte solidarité auprès des syndicats, quels qu'ils soient, pour soutenir effectivement leur action, pour défendre la loi Hoguet. Mais je voudrais souligner quand même aussi quelque chose d'important. Même s'il y a des oppositions, des visions différentes, partagées, je voudrais souligner quand même qu'au moment où le rapport de l'autorité de la concurrence a été déposé, j'étais moi prévenu le matin à 12h30 et le soir même à 18h30, tout l'écosystème, les réseaux de mandataires, les franchises, les coopératives, tous les syndicats de l'immobilier étaient réunis pour un communiqué de presse à 21h30 le soir même. Et c'est ça qui est important. On a fait cohésion pour défendre notre profession, défendre notre statut face aux agressions et qui peuvent revenir rapidement sur le marché en fonction des orientations politiques et qui peuvent se dessiner demain.
Pensons juste aux gens qui regardent ce spectacle. Moi, je suis d'accord sur les arguments de fond et l'idée de dire il faut baisser les honoraires de 6 à 3 et tout ira bien. J'y crois pas une seule seconde, je l'ai dit. Il faut juste que dans nos réactions collectives, on n'était pas signataire par exemple de cette lettre-là.
Moi, encore une fois, je demandataire, non, parce qu'il n'y a pas de carte professionnelle.
Oui, non, mais bien sûr, mais c'est, moi, je suis député de la nation, j'ai vendu mon logement, j'ai trouvé que 5% c'était cher, et ça, c'est quand même ce que pensent les Français. Et à nous de leur convaincre que c'est pas si cher que ça, bien sûr, encore une fois, je suis de ce côté-là. J'ai une autorité de la concurrence qui regarde et qui dit oui, c'est trop cher, et j'ai des enseignes qui disent circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que cette ligne de défense, et je ne dis pas que c'est la seule chose que vous faites, évidemment, il faut juste s'en méfier, et c'est pour ça que ma proposition, c'est de dire. Comment on arrive aussi quand même à donner le change et à dire, ok, on a aussi fait le ménage chez nous sur un certain nombre de sujets, on a pris un certain nombre de décisions collectives, parce que
sur,
je pense
sur lesquelles,
que l'objectif...
Par exemple, sur lesquelles
moi, j'ai parlé du mandat exclusif, j'ai parlé de la toute-puissance des portails. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes, je ne dis pas qu'on va les régler ce matin. Je dis juste qu'on ne peut pas dire, nos honoraires sont à ce niveau-là, circuler, il n'y a rien à voir, parce qu'un jour, il y aura un Macron de ce monde, son cousin, son fils, que sais-je, qui dira, là, j'ai l'industrie parfaite, sur laquelle je peux taper et ce sera populaire de le faire et moi c'est tout ce que je veux éviter pour notre industrie.
Mais Vincent, il y a peut-être deux façons de conduire une transaction aussi. Il y a effectivement être effectivement un acteur passif, ouvrir la porte et puis effectivement l'accompagner chez le notaire, mais il y a d'autres professionnels qui voient leur métier et l'exercice de leur profession de façon différente, qui ne font, n'accompagnent pas le notaire, le client chez le notaire et qui rédigent directement là, qui s'occupent effectivement des formalités, qui le font de façon sécurisée et peut-être qu'on pourra envisager aussi une rémunération différencier selon qu'on le rédige ou rédige pas, c'est peut-être une proposition que portera la FNIM, parce que je crois, qu'est-ce qui nous sépare, on peut accepter qu'il y ait deux façons de faire le métier. Il y a des réseaux qui sont beaucoup plus vertueux et beaucoup plus respect de la réglementation avec un accompagnement client plus fort, et d'autres qui le sont moins, sous l'angle du digital ou d'une intermédiation plus aisée. Mais donc il faut l'accepter ouais. aussi, moi, mais ne mettons pas ce débat uniquement sous un angle de rémunération pour faire plaisir, pour mettre devant. Et, parce
raison.
Qu'on va quand même pas aussi travailler à moins cher que les notaires, quand même Vincent. Donc il y a un minimum quand même, hein, et aussi de respect de défense de nos professions.
Non, mais juste, Cécile disait qu'elle est extérieure. Et une seconde, une seconde. Je ne suis pas autant extérieur que Cécile à la profession, mais il se trouve que je regarde d'autres segments de cette profession. Il y a des segments de la profession qui, par des prises de position trop dures et pas assez conciliantes vis-à-vis des autorités comme l'autorité de la concurrence, ont tout perdu. Et je pense aux promoteurs immobiliers. Et moi, j'ai pas envie qu'on se retrouve demain dans la situation de la FPI pour prendre le truc, où franchement l'écoute est légale à zéro, ce qui n'est pas eu tout le cas de la FNIM, de l'UNIS. Et mon point est juste de dire, quand on vous dit qu'on est trop cher, et c'est un peu ce que pense le client, on ferait mieux dire, ok, on prend le point, on y réfléchit, plutôt que de dire circuler, il n'y a rien à voir, c'était mon seul point.
Réponse de Charles Marie.
Oui, moi je voudrais répondre, parce que d'abord, très sincèrement, j'ai pas du tout le sentiment que les agents immobiliers, en tout cas pas chez 121, et puis je connais bien mes confrères des autres réseaux aussi, à aucun moment on a dit. Circuler, il n'y a rien à voir, jamais. On n'a jamais refusé toute forme de réflexion, toute forme de conversation, tout ce qui soit de nature à bonifier la perception que le client a du métier d'agent immobilier, à l'en oublier, parce qu'on considère que c'est un métier à part entière et qu'on ne fait pas à temps partiel, qu'on fait à temps plein. Donc on a vraiment cette préoccupation-là et on n'a jamais dit, à aucun moment, à chaque fois qu'on a été invité à discuter, soit avec nos confrères à la FNIM, avec d'autres syndicats parfois, ou même avec l'autorité de la concurrence ou des représentants du gouvernement, on a toujours accepté la conversation, on a toujours accepté le débat, et c'est notre disposition d'esprit. J'étais encore hier auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances 2025. On refuse pas ce type de rendez-vous, et bien sûr, on a cette préoccupation-là. Sur les deux leviers que vous venez de prendre comme référence, personnellement, permettez-moi, ça c'est de l'eau, mais je bois du petit lait. Parce que d'abord, vous le savez, 121, sans prétention aucune, on peut dire qu'on a probablement inventé la notion d'exclusivité dans l'immobilier. Donc la notion du levier de l'exclusivité, forcément, ça fait 37 ans qu'on milite, si tu veux, sur ce principe d'exclusivité. Donc bien sûr qu'on est militant pour ça, ça sous-entend qu'on pourrait avoir demain 100% du marché, ce qu'a rappelé Olivier. Quant au portail, là je bois... Je vais dépasser le petit lait, je pourrais boire un bon chocolat, parce qu'en fait, nous sommes avec mes confrères à l'origine de la création de Bien Ici, d'ailleurs Cédric Jeannin l'a rappelé tout à l'heure, et nous, 121, nous avons refusé depuis l'origine d'avoir quelque partenariat que ce soit avec le Bon Coin ou avec Se Loger. Donc cette notion de dépendance, si tu veux, ou plutôt cette notion d'indépendance, c'est quelque chose qui nous anime depuis fort longtemps, depuis le début. Donc on a utilisé déjà ces leviers, et on s'empêche en rien d'avoir une réflexion. Mais à un moment donné... Il y a un coût incompressible de la production du service. Voilà. Alors, encore une fois, ceux qui ont le recul de 10 ou 15 années d'exercice de la profession, moi, ça fait le double. À un moment donné, et Loïc, tu le sais, c'est l'agent immobilier à qui on a fait supporter la responsabilité de la transparence de la transaction. Voilà. Et donc, on a additionné les coûts, parlons de la gestion locative, typiquement, où les coûts aussi ont été aggravés. Parlons du syndic de copropriété, tu as rappelé où les coûts ont été aggravés, mais aussi dans la transaction où nos démarches ont été aggravées. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher de la ressource ailleurs? Ben, je sais pas, peut-être dans l'exclusivité. Est-ce qu'on va, moi, je suis comme Olivier, pas favorable à ce qu'on saucissonne la mission d'agent immobilier. J'ai trop de considération pour ce métier pour imaginer qu'on puisse se contenter de faire des visites. Mais en fait, si on voulait vraiment neutraliser l'impact d'une transaction, c'est quelque chose qui n'arrivera pas parce que les consommateurs ne vont pas être réceptifs à ça. Il faudrait qu'en réalité, on puisse facturer une prestation au mandat. Et là, on assierait, d'accord, la charge de la transaction, non pas sur une transaction, mais sur X mandats qu'on arriverait à rentrer. Voilà, ça, malheureusement, la loi ne le prévoit pas. Je suis pas certain que ce soit le cas. Mais si un tel dispositif n'est pas mis en place, j'ai peur qu'on soit contraint à des taux de rémunération relativement élevés, en tout cas, qui puissent être incompréhensibles pour le consommateur. Après, je rejoins Loïc, très sincèrement. Les honoraires, c'est un souci quand le service n'est pas délivré.
C'est ça. On n'a pas assez parlé de la qualité de service. Est-ce que, tout à l'heure, vous en parliez, Vincent, vous disiez que certains consommateurs n'étaient pas prêts à payer autant en commission. Mais est-ce que, quand vous allez me répondre, messieurs, quand le service est vraiment bien fait, quand il y a un accompagnement total, l'agent immobilier va chez le notaire, est-ce que les consommateurs sont peut-être moins regardants quand on est satisfait du service? On est prêt à payer, non?
Les honoraires, oui, pour répondre... Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais je pense que c'est pareil. On voit quand même peu de monde, je parle de clients, vendeurs ou acquéreurs, selon le type de mandat, qui nous challenge sur les honoraires. Très peu.
Quasiment jamais.
Quasiment jamais. Il y a eu une réforme, hein. Il y a eu un décret qui
est... Pourquoi ? Parce que maintenant, ils ne challengent plus, parce qu'ils vendent eux-mêmes leur bien sur PAP, sur Le Bon Coin, vous l'avez dit.
Ils en vendaient encore plus il y a 10 ans, hein.
Mais Loïc a donné la réponse.
On a grignoté le PAP avec des honoraires qui sont là. Donc, non, aujourd'hui, ils ne demandent pas parce qu'ils savent que ça existe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est une qualité de service. Qualité de service. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Charles. À la fin, on confond toujours le prix et la valeur. Qu'est-ce que cherche le consommateur de la valeur? Le prix, ce n'est pas le sujet.
Non, lui, il veut une valeur ajoutée à votre.
Il veut une valeur sur la prestation que lui a vendue, proposée, annoncée le professionnel. Quand on arrive en disant « Bonjour, j'ai appris que vous mettiez votre maison en vente. Voici la liste des services que je vous propose. Voici l'engagement d'accompagnement que je vous propose. Si le bien est vendu dans un prix qui convient aux parties, dans un délai qui convient aux parties, si le compromis est bien rédigé, si le conseiller va accompagner son client sur les relevés de compteur, s'il accompagne l'acte définitif, s'il prend soin de lui... Au final, je paye non pas un prix, mais la valeur est au rendez-vous. Donc moi, je suis pas complètement aligné avec... Je comprends la position politique de Vincent, hein, qui a dit attention à ne pas... C'est un peu ce que tu veux dire, je pense. Hein, attention à pas se braquer avec un ministère de l'économie et des finances. On sait pas qui sera le prochain en disant vous êtes trop cher. Et d'accord, Loïc Charles, on a tous été reçus, ils nous l'ont dit à chaque fois, hein, avec une référence qui était les 2000 euros des agences de papa. On dit mais nous, aujourd'hui, on va pas là-dedans. C'est suicidaire. Ils nous ont pas cru. Hein. Et finalement, un an et demi après... la boîte est pas par terre, mais pas très très loin. Donc moi, je pense qu'à dessus, c'est de continuer à mettre de la valeur dans nos prestations. On n'a pas encore parlé de data, on n'a pas encore parlé de tout ça, tous ces sujets-là aujourd'hui qui arrivent. Comment on les valorise auprès de nos vendeurs et acquéreurs? Comment on arme mieux nos conseillers pour apporter plus de valeur? Moi, je pense qu'on est plutôt dans et les honoraires entre les vitrés et les mandataires, c'est pas un sujet de valeur et de service. Ça, c'est un faux débat. C'est juste que nous, on a fait un choix de ne pas avoir d'agence. Pas ouais. D'agence.
Juste sur la relation avec le client, on en parlait tout à l'heure de la formation continue pour les agences. Est-ce que vous, à l'issue de ces 5 semaines, régulièrement, vos agences sont reformées sur les lois, sur les pratiques sur...
Bien sûr, parce que tout à l'heure, on parlait de 5 jours. Hein, en 5 jours, on n'est pas devenu un pro de l'IMO et malheureusement, on n'en est pas non plus au bout de 5 semaines. C'est mieux que de rien faire, c'est mieux que 5 jours, mais 5 semaines, on n'est pas encore un pro. Donc ils sont évidemment accompagnés au fil du temps, sur un cursus universitaire en ligne, sur un cursus en présentiel. Nous, on a 600 formateurs habilités. On a 600 formateurs partout sur le territoire qui dispensent des formations. On a des partenaires qui viennent les former. Donc, il y a un cursus d'accompagnement durant presque, je dirais, toute la vie. Alors, à la fois sur le métier de l'immobilier et après sur le métier de coaching et d'animation quand ils décident d'avoir des, de créer une équipe au sein de leur, au sein du réseau. Bien sûr, il y a un accompagnement. On a un programme, on a une université, on a... On est ben, comme tout le monde, quoi.
Est-ce que vous les récupérez après, Charles, Marinakis ?
Non ? Est-ce que
vous les récupérez une fois
gens,
qu'ils sont...
Les gens de chez IAD ?
Ouais.
Ça m'arrive, ça m'arrive. Uniquement ceux qui sont formés, en fait. Les autres, c'est...
Que les bons, que les bons.
Oui, juste un petit mot sur la formation. Il y a une grande différence dans une agence traditionnelle, vitrée, divitrée, et un réseau de mandataires. C'est que chez nous, effectivement, on prend en charge directement le coût de la formation.
Attention, le micro, on vous
paye. D'un réseau de mandataires, on paye un abonnement qui contribue à la formation très
souvent.
Absolument pas. Donc, je voudrais quand même rappeler, Loïc,
juste je t'interromps, mais ce que tu dis est une erreur.
Je t'ai pas coupé, Olivier.
Non, mais c'est une
erreur. Attention.
Non, mais c'est juste une parce que c'est une erreur. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, mais là, c'est une erreur.
Je t'ai pas coupé. Je voudrais juste rappeler quand même que la genèse du rapport de l'autorité de la concurrence, notamment, qui a été commandé, bien sûr, signé par Bruno Le Maire, mais commandé par la DGCCRF. La DGCCRF, autant les clients qui traitent avec un agent immobilier aiment leur agent immobilier, mais la DGCCRF ne nous aime pas. Et elle considère que l'intermédiation telle qu'elle est exercée aujourd'hui n'assure pas le service à hauteur de la rémunération. Ce n'est pas le coût de la rémunération, c'est le service adossé à la rémunération demandée. Ils veulent plus de prestations et c'est ce sur quoi nous battons. On ne peut pas niveler vers le bas une massification qui contribue à faire, je dirais, une intermédiation, je dirais, sans le conseil qu'attendent nos clients. Et c'est ça le combat de survie de la profession. Si nous ne le menons pas, nous aurons d'autres rapports de l'autorité de la concurrence et de façon à disrupter notre activité.
Et je reprécise, les formations sont gratuites parce qu'il est interdit de faire payer les formations dans le modèle que nous avons.
Mais d'accord, mais dans le modèle économique sous forme d'un abonnement, il faut commencer à payer, notamment dans un réseau de mandataires, pour avoir droit de travailler. Moi, je suis désolé, je suis chef d'entreprise, j'engage un salarié, j'assume effectivement mes coûts de fonctionnement et mes charges.
Oui, mais aujourd'hui, c'est intéressant. Ça dépasse un peu le cas de la loguée, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, le choix qu'on a fait, et encore une fois, moi je ne mets au pilori personne. Aujourd'hui, quand un professionnel décide de rejoindre l'un des réseaux de l'Arche qui est très représenté, de payer 50 000 euros de droit d'entrée, d'investir 200 ou 300 000 euros dans une agence immobilière, c'est son choix d'entrepreneur. Nous, le choix
c'est,
d'entrepreneur.
C'est 25 000 le droit d'entrée.
Non, mais je disais en général, je n'étais pas juste sur Century 21, tu vois, mais il y a d'autres agences où c'est 50 000. D'autres réseaux, ça peut être 50 000, mais même 25 000. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de dire, nous, pour juste 163 euros, tu vas avoir accès à tous les services. C'est un choix de modèle économique. Que ça déplaise, que ça chatouille, que ça gratouille certains, ben oui, on est bien au courant, hein, on voit ça tous les jours. Mais c'est autre chose. Et moi, aujourd'hui, si un entrepreneur est capable de mettre 25 000 euros, de mettre 200 ou 300 000, nous, le modèle d'IAD, c'est de permettre à chacun. Aujourd'hui, chacun ne peut pas devenir franchisé dans un réseau. Parce qu'il faut aller voir Tata pour avoir de l'argent, il faut aller voir le banquier pour prendre de l'argent. Nous, on vit.
Quand on est franchisé, on est un professionnel.
Et c'est un peu différent. Nous, on a fait un choix différent. Mais encore une fois, nous, on est très sereins. C'est un chemin différent de permettre à chacun de le faire. Si je veux avoir quelque chose de différent, eh ben, le coût d'accès, et là, je reviens sur la valeur, et peut-être qu'il y a plus de valeur, peut-être que chacun sur vous, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'en France, chacun va se retrouver dans tous les modèles.
Ça veut dire que vous allez vous retrouver aussi sur des sujets qu'on évoquait tout à l'heure, de services additionnels, comme les agences immobilières qui se transforment avec des services additionnels.
Non, mais aujourd'hui, comment on fait pour être numéro 1 en France si on n'a pas mis des services additionnels? Comment on fait pour être numéro 1 si on ne forme pas? Comment on fait pour être numéro 1 si on n'a pas... Nos agents, même pour 163 euros, ils sont pas tous stupides. S'ils payent, c'est qu'ils s'y retrouvent. La valeur est là. Donc arrêtons de prendre les gens qui payent 25 000 euros de droit d'entrée, qui payent des redevances comme étant des gens stupides, et aussi stupides que ceux qui paieraient 163 euros. Chacun s'y retrouve par rapport à son background, par rapport à ce qu'il a envie de faire, par rapport à ce qu'il a envie de construire, par rapport à son âge, par rapport à son passé. Donc il n'y a pas d'opposition à dire « mais toi tu payes pour travailler, toi tu mets... » Non, c'est des modèles qui se juxtaposent, donc bien sûr qu'on enrichit. Alors aujourd'hui l'enrichissement il est sur la formation, il est beaucoup sur les outils également, hein, parce qu'aujourd'hui, on en parlait encore hier soir, l'open data fait qu'aujourd'hui nous avons des vendeurs acquéreurs qui ont un accès à la connaissance qui est bien plus fort qu'il y a 15 ans. On va juste prendre DVF, il y a encore quelques années, c'était le pro tout puissant de l'immobilier qui venait en disant « Madame, je suis le seul à savoir que dans votre secteur, 3 biens ont été vendus à ce prix-là. » Aujourd'hui, tout le monde connaît le prix de vente de son voisin. Donc, cet élément-là qui faisait quelque part un peu une force de nos professionnels a disparu. Qu'est-ce qu'on lui donne de différent ? Qu'est-ce qu'on lui apporte ? Comment on enrichit ? Donc, les évolutions autour de l'open data nous obligent à avoir des outils toujours plus performants pour être compliqué. Donc là, mais je pense que c'est pareil chez Charles. Hein. Tout le monde, on a des R&D, on a des chefs de produits qui travaillent pour les accompagner, formation et les équiper en termes d'outils.
On arrive sur la fin. Le temps de parole, Charles, peut-être le mot de la fin ?
Oui, alors revenons peut-être sur le sur la loi, les modèles. Vous l'avez bien compris, on pousse des modèles différents. Moi, j'ai une conception de l'agent immobilier, mais Olivier le sait puisqu'on a l'occasion d'en parler. Nous, pour nous, l'agent immobilier, c'est un acteur local engagé dans la vie de sa cité et qui vit et qui est un commerçant de proximité, qui est installé, qui est un tiers de confiance. Et je vous dis, la dernière enquête que nous venons de mener par un institut de sondage totalement libre nous a conforté dans ce choix-là et cette orientation. Mais au-delà de ça, pour revenir sur la notion de la loi Hoguet, parce qu'en fait, on est parti de là, moi, j'aimerais que cette loi-là, on puisse la dépoussiérer sur trois sujets. J'insiste sur la formation préalable. Ça me paraît crucial. Et Loïc, t'as bien fait d'intenter cette procédure parce que on ne peut pas se déclarer ou s'inventer agent immobilier du jour au lendemain sans avoir un minimum de compétences. Donc ça, c'est un, et ça me paraît tout à fait nécessaire. Deuxièmement, réglons cette histoire de carte professionnelle. Il faut le régler d'une manière ou d'une autre, que le législateur nous dise dans quelles conditions on peut ou on ne peut pas exercer la profession d'agent immobilier. Et troisièmement, il y a, et je voudrais, Loïc, tu as dit le mot, la DGCCRF fait en ce moment un travail de fond d'une sournoiserie terrible. D'accord ? Je ne sais pas qui a vendu l'appartement de Bruno Le Maire, ça n'a pas dû bien se passer le truc là. Vous n'avez pas dû. S'il est là, pour le coup, j'en veux énormément. Je me demande si c'est pas IAD, en fait. Je me pose la question. Je taquine. Un peu d'humour. Je vois qu'il y a des fans d'IAD à gauche, là. Voilà. Par contre, vous n'avez pas la bonne couleur de veste, monsieur. Il faudra changer la veste.
On les reconnaît vite, moins vite que chez toi.
Ouais, hein. C'est ça. Et en fait, dernier sujet, il y a quelque chose. J'ai alerté Olivier, qui est là, notre ami Loïc, bien sûr, Daniel, qui est là aussi de l'UNIS. Il y a aujourd'hui une remise en cause de la clause pénale dans les mandats de vente qui me paraît extrêmement préoccupante. Ça veut dire que ça, si on laisse se déséquilibrer ce rapport entre les mandants et nous, on va être en danger. Je m'explique en deux secondes. Pardon, est-ce que c'est important ? En fait, je m'aperçois que nous tous, parfois, on se préoccupe davantage de... C'est vrai, les modèles, Vincent le rappelait, une philosophie du métier d'agent immobilier, peu importe le modèle, c'est là qu'on espérait. Et pendant ce temps-là, la DGCRF nous grignote sur le terrain en faisant des rapports à charge et arrive à obtenir des jurisprudences qui nous sont très défavorables. La clause pénale, vous savez, à l'époque, quand vous arrêtiez un mandat à 100, le vendeur était obligé de vendre à 100. Il n'avait pas le choix que de vendre, parce que vous avez confié cette mission-là. Et puis, à juste titre, les textes ont évolué. Maintenant, quand un vendeur vend à 100, s'il veut plus vendre à 100, c'est sa liberté de ne pas vendre. Mais du coup, il était redevable d'une indemnité de clause pénale équivalente au montant des honoraires, au motif, si vous voulez, du travail que vous aviez accompli. Eh bien, la DGCCRF s'appuie sur une jurisprudence assez récente et commence à contester, d'accord, cette clause-là, telle qu'elle est rédigée dans les différents mandats, etc. Ça sous-entendrait que, et là, ça va aggraver, Vincent, le coût de la prestation. J'y viens. Ça veut dire qu'on prend un mandat à 100, que le vendeur décide de ne plus vendre à 100, après tout, c'est sa liberté, mais qu'en revanche, il ne devrait plus rien à personne. Et là, si c'est ça, d'abord pour nous, ça va être extrêmement gênant parce que le butoir, d'accord, de la mission d'agent mandataire, il est à l'infini, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait rentrer 1000 mandats et faire zéro vente. Et ensuite, alors là, ça va aggraver le taux de transformation mécaniquement et donc ça va aggraver le coût des honoraires et de la prestation pour nos clients, ce qui n'est pas la philosophie. Donc soyons prudents aussi et la réglementation doit évoluer de ce point de vue-là et on va devoir militer tous ensemble, comme on a su le faire sur d'autres causes, tu l'as rappelé Loïc. Cette cause me paraît être absolument nécessaire. Il faut qu'on se retrouve pour que cette loi Hoguet, elle soit toilettée, encore une fois, pas forcément au détriment de telle ou telle organisation, mais pour rassurer nos consommateurs, parce que finalement, être un tiers de confiance, c'est finalement le plus bel hommage que peut nous rendre le client, c'est de nous considérer comme étant un tiers de confiance. Voilà.
Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Charles Marinakis, président de Century 21. Merci, Olivier Descamps, directeur général de IAD France. Merci, Loïc Quentin, président national de la FNAIM. Voilà, et merci Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Peut-être un petit mot de Cédric Leveau sur ces débats passionnants depuis ce matin, pour clore ces débats ici dans l'Atrium.
C'était pas prévu, mais un petit, tout petit mot de clôture. Merci à tous pour votre présence. Je suis très satisfait de cette sixième édition. Merci à nos deux présentatrices. Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez été super dans la distribution de la parole. Et puis, un grand, 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 grand merci à toutes les équipes techniques. C'était top aussi. Les équipes de l'Arsenal. Et notre ami Simon Grosjean de la société Avance, je vous assure, avec ses équipes et principalement Thomas, le site, c'est eux, ce sont des véritables partenaires, ce n'est pas un prestataire, ils ne se défraient même pas pour le travail qu'ils ont réalisé, ils se sont investis pour vous, pour nous, donc un grand merci à ce partenaire majeur, la société Avance, et à Thomas particulièrement.
Et merci Bérénice.
Merci Cécile.
Les Assises de l'immobilier de Metz 2024 sur Radio Immo.